Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans ce deuxième épisode de la masterclass IA en santé entre mythe et réalité, j'échange avec François-Henri Boissel, CEO et cofondateur de Nova Discovery. Sa startup œuvre pour dérisquer et optimiser les phases de recherche et d'études cliniques des industriels de santé en reposant son activité sur la recherche dite in silico. Via sa plateforme, Nova Discovery associe des modèles physiopathologiques combinés à des modèles informatiques du traitement candidat à des populations de patients virtuels. Elles permettent ainsi une augmentation de la probabilité de succès ou une meilleure détection des échecs de futurs essais cliniques. Cette discussion vous plongera dans la vision de l'IA en santé que partage François-Henri à travers Nova Discovery et vous en apprendra plus sur sa stratégie de création de valeur, de business model, de marketing, de recrutement et plus encore. Salut François-Henri, ça va ?
Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à tous et à toutes.
Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à échanger donc sur cette masterclass. Le but de nos discussions, ça va être de comprendre comment Nova Discovery appréhende la thématique de l'intelligence artificielle à tous les niveaux de la stratégie. Alors, on va parler de technologie, de business model, de marketing, un petit peu de régulation, partenariat, recrutement et plus encore. L'objectif, c'est donc de partager des conseils concrets à partir d'anecdotes de l'aventure de Nova Discovery. Ça te va ?
Très bien.
Alors c'est parti. Alors pour donner un peu de contexte, aujourd'hui on sait que développer un médicament c'est un processus qui est long, complexe et coûteux et que ça peut durer donc du lancement d'un programme de recherche à la mise sur le marché jusqu'à 15 ans. Et sans compter le fait que généralement, ça peut même arriver qu'une seule molécule sur 10 000 aboutisse et donc que les échecs sont généralement assez tardivement identifiés. Et c'est là que Nova Discovery intervient. Car pour pallier ces problèmes, donc l'activité de Nova Discovery repose sur la recherche in silico, et notamment via une plateforme qui s'appelle Ginkgo. Alors tu vas me dire si je me trompe sur la prononciation, mais cette plateforme permet donc l'exploration d'hypothèses par simulation numérique. Mmh. Alors avant qu'on rentre dans les détails, est-ce que François-Henri, tu pourrais nous expliquer rapidement comment toi t'en es venu à t'associer avec ton père pour fonder Nova et où en êtes-vous aujourd'hui ?
Alors, assez facile pour la première partie de la question. La seconde prendra peut-être un peu plus de temps, donc n'hésite pas à m'interrompre et à recadrer. Donc sur la première partie, j'ai, comme certains des auditeurs et des auditrices, une formation d'école de commerce, donc pas du tout scientifique. J'ai commencé la première partie de ma carrière professionnelle en banque d'investissement à l'étranger, à Londres, puis à Tokyo. Il se trouve que j'ai travaillé pour une banque d'investissement américaine qui a fait faillite en 2008 et vous comprendrez évidemment de laquelle il s'agit. Et je me suis retrouvé un peu à la croisée des chemins et plutôt que de continuer dans cette industrie, j'ai pris cette opportunité pour me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Mais j'avais comme critère de sélection du projet le besoin de me positionner sur un projet avec un impact sociétal fort. Formulant l'hypothèse de primo-entrepreneur que la création de société c'est un business qui est extrêmement difficile, tout domaine d'industrie confondu, et que par conséquent il fallait que je me sente investi d'une mission qui me dépassait très largement pour avoir l'énergie de me lever tous les matins et de continuer à me battre contre vents et marées. Et donc le secteur de la santé s'est imposé de façon assez naturelle, ce d'autant qu'on a un historique dans la famille, en particulier avec mon père, le professeur Jean-Pierre Boissel, qui lui, au moment de la faillite de Lehman Brothers, puisque c'est de Lehman dont on parle, arrivait à la retraite de ses attributions académiques. Donc on s'est bien croisé, lui a apporté le volet fondamentaux scientifiques et l'idée. Et j'ai modestement apporté les capacités à lever des financements, la compréhension de ce que c'est qu'un business plan. Et on s'est lancé dans cette aventure en 2010. Je vais faire un historique très accéléré pour répondre à la deuxième partie.
Ouais.
donc, plus de 10 années d'existence, beaucoup de galères au début, et ça, c'est vraiment le syndrome du projet innovant. La vraie première question que se posent des investisseurs quand ils vont regarder un projet, indépendamment de la composition de l'équipe fondatrice, des mérites de la techno en tant que telle ou du niveau de protection de la propriété intellectuelle, c'est la question du timing. Est-ce que c'est des gens qui sont arrivés au bon moment ou un tout petit peu avant et le cas échéant, il y a quelque chose à faire, ou est-ce que ce sont des gens qui sont possiblement un tout petit peu trop visionnaires et il va falloir porter le projet à bout de bras pendant 10 ans, le temps que le marché commence à se cristalliser. Et on était un peu dans cette problématique. Donc on a galéré pas mal de temps, et puis les choses ont fait que finalement le marché a fini par reprendre, et on est aujourd'hui, après avoir été 21 personnes dans l'équipe sur le payroll en janvier 2020, juste au sortir de notre première levée de fonds institutionnelle, aujourd'hui en janvier 2021, 50 personnes sur le staff.
Ok, très bien. Merci donc de nous expliquer tout ça. Donc avant qu'on parle un petit peu de techno et d'IA, j'aimerais qu'on parle donc de la solution offerte par Nova Discovery. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout simplement sur quelles connaissances scientifiques vous basez-vous pour mettre à disposition cette plateforme d'essai in silico? Donc en gros, où sont disponibles ces connaissances et quel principal challenge dans leur exploitation?
Alors peut-être avant de rentrer dans ce niveau de détail, je vais prendre une minute pour expliquer la techno dans ce moment. C'est une méthodo et qui est aujourd'hui cristallisée dans une plateforme de simulation d'essais cliniques qui n'a pas vocation à se positionner à terme comme un substitut aux essais sur des sujets humains. L'idée, c'est plutôt d'intervenir en amont de ces phases-là, d'explorer des hypothèses de façon certainement plus rapide et moins coûteuse et possiblement dans certaines circonstances plus fiable, de sorte à ce que nos partenaires biotech et pharma puissent ensuite concevoir des essais cliniques sur des sujets humains qui ont une probabilité de succès plus importante. Donc c'est ça le cœur de l'approche. La proposition de valeur, c'est, comme je l'évoquais, l'augmentation de la probabilité de succès, c'est la réduction des coûts en valeur absolue et possiblement aussi une réduction au moins partielle du time to market. Maintenant, pour répondre plus immédiatement à ta question, Jean-Baptiste, comment ça fonctionne d'un point de vue des inputs, l'originalité, c'est peut-être en ça qu'on se différencie des approches IA un peu plus standard, c'est qu'on va, pour faire ces essais cliniques in silico, avoir besoin de 3 assets, pour faire simple, un modèle de maladie qui est la partie la plus consommatrice en ressources à développer, un sous-modèle du candidat médicament que notre partenaire biotech ou pharma est en train d'étudier en phase clinique, et troisièmement, une population de patients virtuels. Donc le gros du boulot, c'est le modèle de la maladie, et là la question devient comment développe-t-on ces modèles et quel est l'objectif. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une espèce de représentation la plus holistique possible des mécanismes physiopathologiques inclus dans cette fameuse maladie d'intérêt. Donc on va typiquement découper le modèle de maladie en sous-ensembles comme le système immunitaire, la fibrose, l'apoptose, etc. Et pour chacun de ces sous-modèles, on va en réalité extraire d'articles scientifiques et non pas de bases de données des connaissances qui vont nous permettre de décrire ce que l'on sait ou ce que l'on pense savoir sur les différents sous-mécanismes biologiques impliqués dans ces fameux sous-ensembles, comme par exemple l'apoptose ou la fibrose pulmonaire. Donc l'élément de base dans notre process, ça va être, pour faire très simple, une extraction d'une phrase d'un article scientifique qui va dire que la protéine A phosphorile la protéine B. On va réunir ça dans une espèce de synthèse qui aura dans un premier temps une forme textuelle et graphique qu'on va ensuite convertir en équation mathématique, donc un système de bioréaction, et ensuite en code pour avoir à disposition ce fameux modèle assez complexe de la maladie dans son ensemble et pouvoir en retour en bout de chaîne des simulations d'essais cliniques.
Ok, et c'est super intéressant, et je pense que tout le challenge est sur la, donc tu l'as dit, sur la construction de ces équations. Et généralement, est-ce que tu pourrais nous dire en moyenne un modèle de maladie, combien de paramètres et d'équations et comprend un modèle de maladie?
Alors ça va dépendre des circonstances, mais effectivement, si la question c'est une valeur moyenne, on va être à entre 3 et 500 équations et de l'ordre de 1000 à 2000 entités biologiques représentées dans le système.
Et donc, après, donc, vous avez créé des modèles informatiques à partir donc, de ces équations et combiné donc, les deux avec donc, ces patients virtuels. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur donc, le résultat final donc, qu'est-ce que ça va apporter? Donc, tu nous as dit une information prédictive sur l'efficacité d'une molécule. Ça va permettre de réduire un risque d'échec. Est-ce que tu as là des chiffres à nous partager concrètement quels résultats vous avez pu observer?
Alors, des chiffres à partager, je pense qu'on n'a pas... C'est très difficile de réussir à disposer aujourd'hui d'un sample de cas tangibles qui soit statistiquement représentatif pour en dériver des enseignements vraiment généraux, mais au cas par cas, on a permis à certains de nos partenaires de générer des économies de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. Quand on a permis, par exemple, à un de ces partenaires-là de sauter une phase de développement, en fait, substituer une phase de développement sur des sujets humains par une approche in silico, donc c'est évidemment beaucoup moins cher et ça va beaucoup plus vite. Cette phase en question, sans rentrer dans les détails, dans un contexte expérimental, il aurait fallu recruter de l'ordre de 200 à 300 patients. Ça coûte très cher et ça prend du temps, et observer le décours de la maladie et l'impact du traitement sur une période qui peut dépasser très largement les 1 an. Et là, on remplace ça par une approche in silico où les patients virtuels, on peut en mettre 10 à 20 000 dans la simulation et les calculs sont parallélisés sur le cloud. La phase clinique en question dure pas plus d'une semaine. Donc on comprend bien les vertus de ce genre d'approche. Donc voilà, il y a des éléments tangibles qui sont au cas par cas et en fonction des indications. Je pense que pour avoir des éléments quantifiés fiables au niveau de l'industrie dans son ensemble, il faudra attendre bien 10 ans, si ce n'est plus, pour qu'on ait suffisamment de use case dans chacun des types de maladies et des indications.
Et justement, donc, tu pourrais nous expliquer, donc, vous positionnez comme un troisième pilier de la recherche médicale, c'est ça?
Oui.
Et donc justement sur ces partenaires, à qui ça s'adresse? Donc tu nous as dit pharma et biotech, mais est-ce qu'il y a des profils particuliers les maladies, dans les domaines d'application? Est-ce que tu peux nous dire concrètement, vous, comment vous allez vous positionner là-dessus? Est-ce qu'il y en a pour lesquels ça va être beaucoup plus pertinent d'utiliser une approche in silico?
Alors, je dirais que la réponse par défaut, c'est que tous les développeurs de nouvelles thérapies, qu'il s'agisse de petites biotech ou de grands groupes pharma industriels, sont concernés par cette techno. Il y a certainement des domaines thérapeutiques dans lesquels il est comparativement plus simple et ou plus efficace de développer ce genre d'approche. Mais en réalité, tout domaine thérapeutique peut en bénéficier. Alors très clairement, les maladies neurologiques, c'est un degré de complexité qui est très élevé, plus que par exemple des maladies cardiovasculaires, alors pour faire hyper schématique, hein, vraiment. Où on va regarder le fonctionnement du cœur comme une pompe, ça c'est presque de la mécanique des fluides et c'est relativement facile à mettre en équation, même si la réalité est un tout petit peu plus complexe que ça, mais comparativement. Donc il y a peut-être des domaines thérapeutiques où c'est plus évident, mais tous peuvent bénéficier de ce genre d'approche. Après, sur les segments de la chaîne de valeur sur lesquels on se positionne historiquement, ça a plutôt été le développement clinique et ensuite l'accès au marché. Mais ces approches sont tout aussi valables sur des sujets plus early stage, en recherche fondamentale et en préclinique.
Ok. Et donc, tu nous disais plutôt que... donc, toi, quand tu t'es associé avec le professeur Jean-Pierre Boissel, donc ton père, c'est toi qui as apporté donc, toute la partie business plan. Est-ce que tu pourrais nous expliquer toi, donc comment tu as travaillé sur la création d'un business model autour de cette plateforme et de la solution de Nova Discovery, et comment tu es allé chercher donc les premiers partenaires, comment tu les as convaincus de la pertinence tout simplement de votre solution.
Ouais. Alors, sur le fait de convaincre sur la pertinence de la solution, c'est vraiment le serpent qui se mange la queue, donc c'est extrêmement difficile de casser le cercle vicieux, mais j'y reviendrai dans un second temps. Sur la première partie de ta question, j'ai eu le luxe de pouvoir faire la quasi-totalité des erreurs du primo-entreprenant sans que ça se traduise par la mort du projet. On n'en est pas passé loin à certaines étapes de notre vie avant le vrai décollage. Donc, il a fallu être extrêmement résilient et patient. Mais j'ai repris d'ailleurs récemment, c'est une petite incidence, le premier business plan qu'on avait produit en 2010. Bon, il se trouve que la colonne vertébrale est assez similaire à ce qu'on continue de développer aujourd'hui, mais beaucoup d'hypothèses étaient fausses et on n'avait pas encore eu la possibilité de les tester. Le problème du timing dans un projet d'entrepreneuriat, c'est que si on arrive effectivement trop tôt, ce qui est assez souvent le cas sur des sujets innovants, le process indispensable de test vraiment rigoureux et structuré d'hypothèses pour affiner le business plan, il n'est pas possible parce que tu as des clients en face qui ne répondent même pas à tes appels. Donc, tu ne peux pas mettre en musique, même en mode draft MVP, ce que tu as envie de développer. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de résonance et personne n'est là pour t'écouter et travailler avec toi sur le fait d'affiner les hypothèses. Les conseils que j'ai à donner, c'est d'être vigilant sur cette notion de timing qui est vraiment probablement la notion numéro un, d'avoir un process de test d'hypothèses très rigoureux, de ne pas hésiter à faire des pivots, de toute façon c'est absolument nécessaire avant de réussir à véritablement trouver son bon business model, et puis dans une certaine mesure écouter aussi, une fois que le marché commence à prendre, ce que le marché a à te dire sur la pertinence de ton business model. Mais on a commencé historiquement, pour des raisons dans lesquelles je n'entrerai pas là sur cette discussion, mais qui se justifiait sur un business model de consulting, et puis on a fait un pivot progressif vers un business model de plateforme SaaS, non pas parce que c'était à la mode, mais parce que ça répondait à un besoin exprimé par nos clients plutôt large pharma aujourd'hui.
Quand tu dis business model de SaaS, donc ça veut dire que vos clients partenaires ont un abonnement, on va dire en règle générale, au niveau corporate, et après ils vont payer en plus pour chaque étude qu'ils vont mener in silico.
Alors le sujet n'est pas encore sec, le sujet du pricing model, puisque de toute façon ce business model SaaS, le pivot est en cours d'exécution. Donc on n'a pas encore aujourd'hui, même si ça va changer dans les quelques mois qui viennent, un produit commercialisable en standalone vraiment centré sur l'outil et la plateforme. Mais ce sera probablement une itération effectivement sur ce que tu évoques.
D'accord. Ok.
Voilà. Ouais.
Et une de mes questions notamment, c'est donc comment, donc tu l'as dit, il y a toute cette problématique de timing. Comment on communique autour d'un projet qui a un caractère technologique très fort et qui est potentiellement donc un peu trop en avance. Comment tu vas par exemple communiquer autour de l'IA et vraiment du fonctionnement de votre plateforme?
Alors, ça dépend de ton audience, ça dépend des objectifs. S'il s'agit de s'adresser à des soutiens financiers, en particulier à des ventures, les principales questions que vont se poser ces profils-là sont, je le répète, parce que c'est extrêmement important, le timing. Avez-vous des premiers signes tangibles d'une traction de marché? Quels sont les cas utilisateurs que vous avez déjà pu observer? Ils vont vraiment essayer de comprendre l'appétence de marché et évidemment dans un second temps la taille de l'opportunité. Donc là c'est toute la partie market sizing, mais il faut réussir à communiquer en termes simples. Donc, je pense que de ce que j'ai pu observer dans le secteur de la santé dans son ensemble, et pas uniquement sur des plateformes plays ou des approches très technologiques, mais même aussi des biotech un peu plus traditionnelles, la bonne combinaison fondateur et manager, early manager qui fonctionne, c'est il faut avoir quelqu'un du business, pas pur scientifique, CEO ou pas d'ailleurs, c'est vraiment au sein de l'équipe de management, mais pas nécessairement au sommet de la pyramide, qui sont en capacité de mettre en musique, enfin pas de mettre en musique, de communiquer en termes simples sur des technos qui potentiellement sont extrêmement complexes. Rares sont les fois où vous aurez en face de vous, même possiblement pour des clients potentiels, des personnes aussi compétentes que celles que vous avez dans vos équipes.
Cet épisode vous est proposé avec le soutien d'Infuse Communications. Si vous êtes chercheur, entrepreneur ou responsable de la communication dans le secteur de la santé, au sein d'un laboratoire ou d'une entreprise à la pointe de l'innovation, et que vous souhaitez faire connaître au plus grand nombre en quoi votre recherche et vos découvertes scientifiques sont importantes, alors il sera nécessaire d'adapter votre discours au niveau de compréhension scientifique de vos différents interlocuteurs. Infuse Communications vous propose un guide pratique et complet qui vous accompagne pas à pas dans l'élaboration et l'implémentation de votre stratégie de communication scientifique. Grâce à ses explications concrètes et ses études de cas, vous pourrez rapidement adopter les bonnes méthodes ainsi que les outils adéquats pour diffuser largement votre science, créer de la valeur autour de votre organisation et vous positionner en tant qu'acteur de référence dans votre domaine de recherche. Qu'il s'agisse de relations presse, de communication financière, de gestion de crise ou de présence numérique, cet ouvrage est incontournable pour communiquer votre science à l'ensemble de vos publics. Je vous invite à découvrir le guide Science Infuse, écrit par Marine Lommel, spécialiste de la communication d'entreprise, publié par la maison d'édition Latitude des Héros et disponible sur www.infused.be. www.infused.be. Bonne écoute sur Entreprendre dans la santé.
Et puis ben, généralement, toi tu as passé, donc, tu l'as dit, hein, 10 ans là en ce moment, ça fait depuis 10 ans que tu travailles sur ce produit. Il y a peu de startups qui vont lever des fonds comme ça après avoir travaillé pendant 10 ans sur un produit. Donc, c'est sûr que tu y connais, tu en connais un rayon. Et donc tu dois généralement adapter ton discours en fonction de tes interlocuteurs. Et moi, une de mes questions, c'est notamment... sur donc, tout cet écosystème start-up, recrutement, comment vous vous positionnez pour bah, vous attirer des talents. Est-ce que la techno va jouer? Est-ce que vous allez faire du marketing autour de cette techno? Ou au contraire, vous allez... Je sais pas.
Si la question c'est comment fait-on pour attirer des talents et en particulier des talents experts qui vont venir nous permettre de développer notre stack technologique, je pense que la communication sur ce fameux stack technologique il vient en second plan. Je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais le vrai sujet c'est la mission de la société et l'ADN de la boîte. Des sociétés qui bossent sur des stacks technologiques innovants, passionnants, etc., il y en a beaucoup, et les très très bons profils qui ont le luxe de pouvoir choisir leurs futurs employeurs seront probablement bombardés de propositions. Les vrais éléments différenciants, et ça j'encourage tous les entrepreneurs à passer beaucoup de temps à réfléchir et à formaliser ça, c'est avec qui vais-je me marier pour les quelques années qui viennent. C'est un choix qui est engageant. Parfois, ça peut aussi supposer une relocalisation géographique, un changement de ville, voire un changement de pays. Même si aujourd'hui, on travaille beaucoup plus from home en raison du contexte sanitaire. Mais il y a vraiment cette notion de j'ai besoin de savoir où je mets les pieds et est-ce que je me reconnais dans la mission telle qu'elle a été exprimée au décours des entretiens d'embauche que j'ai pu passer. Est-ce qu'elle est exprimée aussi cette mission et cette ambition de façon cohérente d'un entretien à l'autre?
Ouais.
Et à partir du moment où je m'y reconnais et je trouve cet environnement sain et les personnes avec lesquelles j'ai pu interagir pendant les entretiens sympathiques et compétentes, je fais par ailleurs un sanity check sur le stack technologique. Je sais qu'a priori c'est très innovant et j'y trouverai mon compte. Mais je ne pense pas que la techno soit le premier élément à mettre en avant quand on essaye de maximiser nos chances de succès sur les sujets du recrutement.
Ok. Intéressant. Donc, mission, valeur avant techno. Ouais. Complètement. Et je pense que c'est commun à beaucoup de boîtes dans la santé, notamment. pour attirer des talents qui sont passionnés et surtout pour travailler autant de temps sur un produit, il faut des gens qui soient à fond derrière. Juste, on va clôturer donc notre discussion. J'aimerais que tu nous parles, toi, des challenges que tu vois à l'entrepreneuriat, donc dans une start-up en santé exploitant l'IA. Pour toi, quelles évolutions sont nécessaires à la fois dans les pratiques et dans les régulations?
Alors, vaste question, vaste sujet. Je pense qu'il faut pas se tromper de combat. Il y a très probablement des freins, ou en tout cas des cadres réglementaires qui ne sont pas suffisamment formalisés aujourd'hui. Mille raisons pour lesquelles on peut potentiellement se planter sur un projet entrepreneurial, mais en réalité, les vrais motifs de plantage et les vrais problèmes que doivent se poser les entrepreneurs sont des problèmes qui sont quasiment transverses. Il n'y a pas de verticale particulière, quelle que soit l'industrie, comme je l'évoquais déjà sur cette discussion, la question du timing, la question d'une définition mûrie et réfléchie de l'ADN de la société, de la formalisation de sa mission pour s'assurer qu'on recrute les bonnes personnes. La question de l'identification précoce, le plus précoce possible et fine des early adopters qui vont ensuite permettre d'enclencher le cercle vertueux de la production d'une preuve de concept tangible, de la démonstration d'un premier market fit, etc. Ça, c'est plutôt des problématiques qui sont assez génériques, quelle que soit l'industrie. Spécifiquement sur l'IA, après, j'enfonce des portes ouvertes, c'est une réglementation qui, à l'aune de la GDPR et sous le contrôle de ce dispositif qui permet malgré tout une diffusion large à des fins de recherche ou d'exploitation commerciale de données proprement anonymisées, mais en tout cas qu'on puisse avoir une forme d'homogénéité dans les données, qu'on puisse facilement constituer des fédérations de base sans avoir des prises de tête sur la compatibilité des normes et des formats, etc. Mais c'est presque secondaire, parce qu'en réalité, si vous avez une société bien capitalisée, bien structurée, solide sur ses bases, avec des objectifs qui sont clairs, ce genre d'écueil-là, elle pourra le traiter. Il y a des tas d'exemples de sociétés dans l'IA qui ont atteint des capitalisations absolument considérables et qui ont été en but à cette espèce de pesanteur du cadre réglementaire. Pour moi, ce n'est pas le vrai sujet.
Merci beaucoup, François-Henri. Et puis, tout le meilleur avec Nova Discovery.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Au revoir.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.